Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire Bélux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30 et le week-end de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique 105.4 FM à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.
Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à Radio Free Gaza. Aujourd'hui, c'est le 50e épisode, donc c'est un petit anniversaire aujourd'hui. Et voilà. Directement, nous aurons Daniele au téléphone de son bateau. Et après, on va écouter un entretien avec Astrid Jamar sur les problématiques colonialistes ou décolonialistes des accords de paix. Mais d'abord, on essaie d'appeler Daniele. Bon, ça n'a pas l'air de marcher pour l'instant. Donc, on va d'abord passer à l'entretien avec Astrid. Et par après, on va réessayer d'appeler Daniele. Donc, nous continuons avec notre entretien de la journée. Aujourd'hui, nous avons Astrid Jamar qui est ici avec nous au studio. C'est plutôt exceptionnel. Généralement, on enregistre à l'avance. Mais voilà, c'est très, très bien. Astrid, est-ce que tu peux te présenter brièvement?
Oui, bonjour, merci pour l'invitation et merci d'organiser ces émissions depuis le début de la flottille. Donc je suis une chercheuse universitaire qui travaille essentiellement sur les questions de la paix à partir de perspectives féministes décoloniales basées à l'Université d'Anvers. Et je fais aussi partie du réseau interuniversitaire belge pour la Palestine. Et je suis aussi activement impliquée dans la dégradation belge de la flottille.
Oui. Voilà. Ben, tantôt, je regardais sur le site Al Jazeera, et où on parle, notamment il y a un commentaire de Martin Griffiths, qui est le directeur du groupe de médiation internationale et qui a travaillé pour les Nations Unies, que c'est un peu bizarre que, apparemment, pour la proposition des États-Unis, le plan en 21 points qui a été établi par Steve Witkoff, que, apparemment, on n'a pas du tout consulté les Palestiniens. Donc, on essaye de mettre en place un plan de paix ou un début de plan de paix sans même consulter les personnes qui sont les plus concernées. C'est quand même frappant. Et qu'est-ce que ça te dit, en fait, Astrid, ce genre de proposition?
Oui, mais en fait, je pense que pour quelqu'un qui travaille sur les processus depuis presque 20 ans, c'est quelque chose qui est absolument pas étonnant. Ce qui est particulier dans le domaine, c'est que ça ne fait pas plus de 15 ans qu'il est considéré normal qu'il y ait un consensus au sein de la discipline et au sein des processus de médiation, qu'un processus de médiation devrait intégrer également une population civile ou des acteurs civils et pas uniquement un gouvernement et les personnes impliquées dans un conflit armé. Mais donc, je pense que cette situation... Elle me fait penser à un des enjeux principaux de ma recherche, qui est centré autour du concept de la colonialité de la paix. Donc, je pense que depuis le contexte BLM, donc Black Lives Matter, qui a démarré aux États-Unis, mais qui est aussi très présent en Europe et en Belgique, les questions coloniales et décoloniales sont au centre de beaucoup de débats publics. Et au sein des débats qui sont beaucoup plus, qui ont une beaucoup plus longue histoire, dans comment se délier de cette histoire coloniale, il y a le mot colonialité. Et donc, le mot colonialité est super important pour montrer comment la violence coloniale continue de se reproduire de certaines manières aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas juste un problème du passé où il faut mieux comprendre le passé, c'est il faut comprendre comment la violence ou comment le pouvoir reproduit des modes de gouvernance liés à l'histoire coloniale, à la violence coloniale, et ça a un impact énorme sur les organisations sociales ou la production des connaissances, aussi bien dans les pays colonisateurs que dans les pays qui ont été colonisés. Et donc, un exemple très concret, historique, de la colonialité de la paix, c'est la trajectoire et l'expérience politique, ou l'expérience, c'est pas le bon mot, mais la trajectoire derrière les discours de pacification et les discours de réconciliation. Et là, je pense par exemple aux travaux de l'historienne américaine Benton, qui a écrit un livre qui s'appelle « They Called It Peace », donc « Ils ont appelé cela la paix », qui a été publié l'an dernier, et qui montre comment ce qui a été appelé la paix pendant les premières incursions sur le nord, ce qui est appelé aujourd'hui le nord de l'Amérique, on parle de paix pour les campagnes de pacification après les massacres ou après les rafles de violence pour imposer la violence coloniale. Donc, je vais laisser la question là, je pense. Je laisse le point là et je vous conseille de lire le livre pour comprendre comment ça s'applique historiquement. Et je te laisse poser la question suivante.
Oui, mais est-ce que tu as un exemple concret de ces mécanismes?
Mais je pense qu'un exemple assez particulier et qui est assez central dans ma recherche à moi, qui porte plutôt sur le Burundi, c'est la colonialité du processus de paix et l'impact de cette colonialité dans le rôle de la médiation de la Belgique. Donc le processus de paix au Burundi culmine par, ou en tout cas un des moments importants du processus de paix burundais est la signature de l'accord de paix, les accords de paix d'Arusha en 2000. Et donc à cette époque-là, le médiateur principal, c'est Nelson Mandela, et un des observateurs importants, ou en tout cas en anglais on dit third party, j'ai oublié le mot en français, les parties tiers, qui accompagnent aussi bien la médiation que les parties en médiation, donc qui ont un rôle parallèle mais assez important dans les discussions sur la table de négociation, c'est le rôle de Louis Michel. Donc Louis Michel, je veux dire, on a souvent une association positive par rapport à son rôle de la médiation, et ce qu'on oublie souvent de dire, c'est comment son rôle en fait est aussi impliqué dans l'effacement du rôle de la Belgique dans la situation politique et la trajectoire politique du Burundi. Donc dans un des derniers drafts quelques jours avant la signature, il était prévu que l'accord d'Arusha que stipule que la Belgique est responsable de l'assassinat du prince Louis Ragasore en 1961, qui est le leader du mouvement décolonial et le premier ministre du Burundi. Louis Michel, à l'époque, qui est le premier ministre de la Belgique, demande que cette disposition soit retirée au projet. Il fait part de cette demande à Nelson Mandela. Nelson Mandela a soumis cette demande aux parties burundaises. Les parties burundaises refusent. Et malgré tout, Nelson Mandela se dit, mais en fait, le Burundi aura besoin des financements belges pour mettre en œuvre ces réformes ambitieuses qui sont formulées dans les accords. Et donc, unilatéralement, décide de retirer la responsabilité de la Belgique dans la section sur la violence coloniale de l'accord de paix. Donc c'est un exemple concret qui est fort lié à la trajectoire de la Belgique et qui remet un peu en évidence le fait que les choses ne sont pas nécessairement binaires à quelque chose de noir et blanc entre paix et conflit, mais que les enjeux politiques sont beaucoup plus imbriqués et que la question de la violence peut aussi être quelque chose qui est caché derrière des discours pacificateurs ou qui est aussi une manière d'effacer certaines formes de violence coloniale.
Oui. Dans le contexte de la Palestine, je me souviens des accords d'Oslo. Enfin, tout le monde se souvient de ça, ou beaucoup de gens en tout cas. Ce qui est frappant, c'est que comment... jusqu'où les Palestiniens, ou en tout cas l'Organisation de libération de la Palestine, le Fatah, ont été prêts à aller pour aller vers une paix. Et notamment, ils ont baissé les armes et il y a donc plein d'accords. Et ils se sont engagés dans un processus qui allait arriver à une solution des deux États. Aujourd'hui, on revient complètement avec ça. Mais quand on voit comment ça a été implémenté à ce moment-là et dans les années après, en fait, on a quelque part entériné la discrimination, l'apartheid qui existait déjà par rapport aux accès aux sources. Et en fait, on a un peu bétonné des choses qui... En fait, le colonialisme en pratique sur les territoires de la Palestine, en fait, on l'a consolidé et entériné dans un accord de paix. Et on a imaginé que ça allait quand même arriver à quelque chose, parce qu'il faut forcément un État. Et c'est quelque chose que je me demande et que beaucoup de gens me demandent et beaucoup de gens avec qui on a parlé les dernières semaines. Notre émission se demande aussi ce mirage d'une solution à deux États, tout en disant qu'on ne va surtout pas discuter avec la Hamas. Ça paraît déjà hautement symbolique, mais aussi pratiquement, comment est-ce qu'on peut baser une paix sur une situation qui est... Enfin, on a déjà eu l'expérience d'une paix qui est installée, qui est imposée, qui ne marche pas. Comment est-ce qu'on peut imaginer, en fait, une paix aujourd'hui sans même discuter avec les Palestiniens?
Oui, mais donc, historiquement, pour certains... Donc, si on revient sur la trajectoire et comment on comprend cette idée de la colonialité de la paix est quelque chose de différent. Qu'est-ce que je veux dire? C'est un mot qui a l'air de donner un consensus, mais en fait qui est très ambigu et qui, historiquement, par les Occidentaux, est quelque chose qui est fort discuté dans les débats académiques sur la paix comme une forme de mission civilisatrice, où c'est systématiquement les Occidentaux, les hommes en cravate élus par nos gouvernements, les représentants des gouvernements, les représentants des organisations internationales et les experts formés en Occident qui sont déployés pour aider les femmes et les enfants des pays du Sud. Et donc là, je mets énormément de guillemets qui ne se voient pas pendant que je parle, mais que je montre bien avec mes doigts, pour aller sauver donc ces hommes et ces femmes et ces enfants, des hommes violents du Sud. Et tout ça, c'est un exemple. Je veux dire, il y a... Si on regarde tous les conflits où il y a un rôle important des Nations Unies et où des missions de médiation envoyées, c'est presque systématiquement ce schéma qui reproduit en fait une vision raciste du monde où l'Occident est systématiquement représenté comme un sauveur et les pays du Sud sont systématiquement représentés comme des espaces violents qu'il faut aller sauver. Et tout ça en effaçant la violence coloniale qui crée la violence qui a été infligée au cours des derniers siècles et qui continue de l'être, comme on le voit aujourd'hui en Palestine, comme on le voit au Congo, comme on le voit en Amérique latine. Et donc c'est pour ça que il y a énormément de choses à pouvoir lire sur les sujets. Et on peut peut-être mettre quelques suggestions sur le site, dans la description de l'émission d'aujourd'hui. Mais donc, il y a des milliers d'exemples de cette colonialité de la paix et qui, malheureusement, un des exemples les plus illustrateurs aujourd'hui, c'est le génocide qui est en train d'avoir lieu à Gaza, où l'Europe et l'Occident veulent se présenter comme une solution, alors que, historiquement, c'est quand même les accords de Balfour qui créent le problème et qui donnent une carte blanche... pour un système colonial qui devient de plus en plus violent jusqu'à l'extermination du peuple palestinien en 2025, mais qui a commencé depuis bien longtemps.
Mais alors, comment pourrait-on imaginer une autre façon d'aller vers un processus de paix? Par exemple, le rôle que le Qatar joue aujourd'hui dans le monde arabe, que le Qatar essaye de jouer dans le conflit entre l'Israël et les Palestiniens, est-ce qu'il y a une rupture de style, une rupture de logique, ou est-ce qu'ils reproduisent aussi le même schéma?
Mais il y a énormément de points de discussion possibles sur cette question super intéressante, merci. Mais je pense que le fait qu'on est ici et qu'on est ici pour faire écho à la Global Summit Fotila montre bien qu'en fait, finalement, c'est les mouvements civils activistes qui parfois apportent beaucoup plus de solutions et qui font pression, qui sont beaucoup plus significatives et que les démarches institutionnelles ou les personnes qui vivent les conflits, qui ont grandi dans les espaces forts influencés par des processus de paix bureaucratiques, technocratiques, occidentaux, n'attendent rien de ces espaces-là. Donc les espaces activistes de paix dignes et justes, ou de paix qui respectent la dignité et l'humanité des personnes affectées par cette violence, ils sont déjà là. Je veux dire, il y a énormément de différents mouvements, que ce soit au Moyen-Orient, en Palestine elle-même, pour mettre en avant des autres formes de paix.
Mais alors, il faut leur donner la place aussi. Parce que ces initiatives existent en Palestine comme en Israël. Il y a des espaces où les gens se rencontrent. Aussi, les Palestiniens et des Israéliens juifs se rencontrent. Mais ce sont des initiatives qui sont relativement petites et qui doivent aujourd'hui survivre dans un contexte qui est hyper violent et hyper polarisé.
Mais au final, je veux dire, le réseau autour des personnes qui continuent à fournir des armes et un soutien politique à Israël n'est pas si grand que ça non plus. Donc je pense que continuer à pousser pour la fin de cette complicité et une prise de responsabilité de nos dirigeants est beaucoup plus essentiel que de se poser la question comment est-ce qu'on peut laisser de la place à des gens qui se mobilisent déjà. Donc en tout cas, en étant assis sur une chaise à Bruxelles, je trouve que notre responsabilité à nous ici, c'est de continuer à garder nos yeux ouverts sur Gaza et à demander à nos gouvernements et à nos institutions qui sont financées par nos taxes de faire leur travail et de respecter le droit international et de mettre fin aux accords avec Israël qui ne respectent de toute manière pas le cadre légal des accords, en plus de ne pas respecter le droit international.
Il y a un petit théâtre ici. Hein.
Voilà. Donc, on a retrouvé Daniele et on va essayer de l'appeler directement. Bonjour Daniele.
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vas-tu?
Salut.
Salut, tu es sur antenne là pour l'instant. Comment ça va avec toi et avec le bateau?
Est-ce que tu m'entends?
Oui, est-ce que toi tu m'entends? Non. Ah, ça c'est très dommage.
Allô?
Oui. Un instant. On relance l'appel. Allô, Daniel, tu m'entends?
Oui, et toi, tu peux m'entendre?
Oui, je t'entends très bien.
Ah, merci.
Voilà. Donc, raconte-nous, Daniel, tu es sur un bateau et comment ça se passe?
Ah oui, maintenant on est arrivé au troisième jour entier. On va vers les quatrièmes journées de navigation. Et maintenant, ça va très bien. On a encore un bon soleil, les vents c'était bon et on est bien motivé.
Ok. Et vous êtes nombreux sur le bateau?
Pardon?
Est-ce que vous êtes nombreux sur le bateau? Vous êtes combien de personnes?
Oui, je pense que peut-être on est le bateau plus petit qu'on a dans la flottille, ou une des plus petites. On n'est que en 6, mais on a beaucoup d'espace dans les bateaux. Mais on a un bon équipage, on a trouvé comment c'est réglé pendant les couvertures de la nuit. Oui. Mais on n'est que 6.
Ok. Et est-ce que vous avez eu des aventures déjà? Est-ce que vous croisez d'autres bateaux? J'imagine que vous voyez la flottille, en fait.
Oui, bien sûr, on est 100% un vrai flottille. On est en train de marcher ensemble. Donc, on a un système de navigation constant et on va toujours se régler via radio, à travers des groupes sur signal. On va se coordonner entre des bateaux et on va aller dans la même direction. Donc, on est dans les quotidiens, on se rencontre, on s'envoie des bons mots ou de la motivation dans un bateau à l'autre.
Oui. Et une journée sur le bateau, ça se passe comment pour toi? Qu'est-ce que tu fais?
Alors, et ça, c'est une bonne question. Donc, comme je disais, on n'est que 6, donc on doit trouver comment vivre bien ensemble. On doit aussi, maintenant, se réveiller à des horaires complètement différents. Donc, il y a quelqu'un qui s'est réveillé pendant la nuit. Normalement, c'est moi aussi. Et être capable de conduire les bateaux en émergence quand on en a besoin, surtout parce que les capitaines et tous les autres, les plus experts, ils ont besoin de plus de temps pour reposer, surtout pour les émergences. Après, on a eu la chance de trouver un expert, un chef à bord, donc on ne doit pas trop se concentrer sur ça. Mais on se règle en coordination avec des autres bateaux. Moi, je me réveille normalement. Je passe à la coordination avec les copains. Ah, mais non, on est en train de se coordonner avec un autre bateau d'émergence. Et celui-là des Open Arms. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Mmh. Et donc, c'est cuisiner, nettoyer, c'est coordonner avec les autres. Et hier, on a fait un entraînement de... Voilà, ça c'est un exemple de ça, désolé. Et on va se coordonner les émergences entre bateaux avec Open Arms.
Uh-huh. Ok. Et vous êtes où là, en Méditerranée? Vous êtes déjà près de Crète, c'est ça?
Oui, on a déjà changé les horaires, donc on est coordonné sous UTC, donc c'est l'horaire normalement qu'on utilise pendant les voyages en bateau, mais on est déjà passé dans l'horaire grec, donc on est déjà à distance dans des eaux internationales, mais en Grèce. Donc pas encore exactement en Crète, mais c'est dans cette direction, dans le sud de ça. Et okay. Après, on va voir.
Ok. Et est-ce que tu as un message pour les auditeurs ici en Belgique?
Bien sûr. C'est que maintenant, on a passé encore les jours plus tranquilles. Donc, c'était bien d'avoir la chance de se comprendre bien entre nous, entre les bateaux dans ce qu'on est. Mais on se rappelle toujours, surtout, c'est quoi le vrai soutien qu'on a besoin? C'est le soutien de personnes à par terre. Donc, c'est celui-là qu'on a eu en Italie, et les autres ont eu en Espagne, mais par tout le monde. On a eu des copains qui viennent de la Malaisie, du Mexique, de par tout le monde. Et moi, que je suis part de la délégation belge, je trouve que j'ai un grand soutien dans chaque journée, dans les personnes qui, pas seulement nous aiment bien, mais qui comprennent bien la cause de ce qu'on va faire. Dans les futurs, ça va être plus compliqué pour nous, mais ce n'est pas les grands soucis. Le souci, c'est quand même soutenir les équipes en terre dans les grands protestes et chercher d'arriver vraiment à bloquer les accords entre l'Union européenne, dans les spécifiques en Belgique, avec l'État d'Israël.
Oui, bien sûr. Ok, Daniele. Ben alors, je te souhaite encore une bonne journée Et merci. On va certainement se rappeler dans un des jours ou des semaines qui viennent.
Parfait. C'est toujours un plaisir. Ouais. Et chercher tout le monde de rester humain et d'être solidaire. Merci.
Ouais, merci à toi. Au revoir.
Au revoir. Merci.
Voilà, c'est déjà la fin pour aujourd'hui. En tout cas, demain, nous serons de nouveau là. Il y aura Julie aux manettes demain. Et il y a Achour qui va passer. Il est déjà venu une fois parler à la dernière édition, au mois de septembre. Et voilà, donc Achour, c'est un réfugié palestinien de Gaza qui habite ici à Bruxelles. Donc demain, on va parler avec lui. Et ce soir, n'oubliez pas, à 19h, il faut aller à la bourse. Au revoir.
Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire Bélux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30 et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique 105.4 FM. À Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.